Bonjour Geoffroy de la Gannerie.
Bonjour.
On se retrouve sur La Clé des Ondes pour parler de se méfier de Kafka. Dans ce dernier essai, paru chez Flammarion, toujours dans la collection Nouvel Avenir, vous explorez un sujet qui, je pense, vous habite pas mal, c'est celui de l'institution de la justice. Oui. Mais cette fois, au travers de sa considération dans l'œuvre de Kafka et surtout de ce qu'on en a retenu de cette considération dans l'œuvre de Kafka, c'est-à-dire ce qui est nommé les anomiques de cette institution. Donc les êtres humains dont seraient les jouets d'un ordre complètement dysfonctionnel. Vous posez que voir les choses de cette façon empêche de considérer le façonnage originel de l'institution en présupposant toujours que cette dernière a un substrat vertueux. Alors ma première question, c'est sur la construction de l'essai, enfin selon son origine. Est-ce que vous partez d'une idée et comment dire, la lecture de Kafka vient illustrer une idée que vous avez en tête ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous vous êtes replongé dans Kafka et l'idée autour de ça est née quoi?
Bah de fait, moi, c'est un petit livre que j'ai pensé peut-être d'abord comme un petit manuel de pensée oppositionnelle. C'est-à-dire d'essayer de voir à quelles conditions est-ce qu'une pensée radicale et oppositionnelle de l'ordre juridique ou de l'ordre étatique ou de l'ordre administratif ne contribue pas à ratifier des impensées ou des formes de pensée qui, en fait, nous piègent ou reproduisent des systèmes de pouvoir que l'on voudrait mettre en question. Au départ du livre, c'était vraiment comme un petit manuel de pensée pour dire voilà quelles sont les conditions pour formuler une critique oppositionnelle de l'État, de la justice, de la police et des institutions pénales et répressives en particulier. Et quand j'ai commencé à vouloir en quelque sorte un peu synthétiser ce que j'avais fait dans La conscience politique, dans Juger, dans L'art de la révolte, qui sont les livres où j'ai essayé de poser comme ça des réflexions sur l'État, l'appartenance, la justice, etc., ben je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des moyens d'y entrer et de mettre en question ce qui me semblait problématique dans la pensée philosophique traditionnelle des institutions. Bah, très souvent, en fait, on retrouvait dans les textes clés des philosophes qui se sont penchés sur ces questions une référence à Kafka. Que ce soit chez Hannah Arendt, que ce soit chez Walter Benjamin quand il parle de la police, que ce soit chez Derrida quand il parle de la loi, que ce soit chez Agamben quand il parle de l'état d'exception, à chaque fois qu'il va y avoir une forme de pensée qui, moi, m'apparaissait comme problématique, j'ai remarqué qu'elle se déroulait et se déployait dans le cadre d'une sollicitation de Kafka et dans le cadre en fait, d'une forme de confiance accordée à Kafka, comme si en fait, il fallait se référer à Kafka pour faire une théorie lucide de l'État et qu'on pouvait d'autant plus attester de la véracité d'une analyse qu'elle pouvait montrer, qu'elle pouvait s'appuyer sur Kafka pour attester de sa validité. Donc je me suis dit en fait, Kafka est une espèce de point de référence obligé de la philosophie politique, précisément aux endroits où moi elle me gêne. Et donc je me suis dit, bah, c'est peut-être une bonne manière pédagogique, en quelque sorte, de partir de Kafka, de m'interroger sur qu'est-ce qui nous séduit dans Kafka, pourquoi est-ce que Kafka est un auteur qui est à ce point érigé par le philosophe comme un réservoir d'analyse puissante, pour identifier les biais de la philosophie politique ou de la pensée commune, et à partir de ce moment-là, opposer d'autres principes d'analyse que j'essaie de déployer.
Oui, parce que alors vous partez évidemment des textes, hein, donc d'abord de la colonie pénitentiaire. Ça permet aussi hein, oui. De découvrir. Moi, je connaissais pas tous les textes, je dois dire. Je connaissais le procès.
Il y en a tellement, oui.
Ouais, ouais. Vous dites la colonie pénitentiaire décrit un voyageur qui se rend dans une colonie à l'invitation. Bon, donc là, vous racontez le texte hein, du nouveau commandant qui y règne pour établir un rapport sur les méthodes punitives auxquelles recourait le précédent commandant. Un officier attaché à cet ancien système lui en détaille le fonctionnement et lui propose d'assister à l'exécution d'un soldat condamné pour désobéissance. Or, le soldat condamné à mort ne sait pas de quoi il a été accusé, ni pour quel crime il a été condamné. Il ne connaît pas son verdict non plus et n'a pas pu se défendre. Alors, vous partez de là pour dire que c'est étrange de prendre appui sur ces textes-là qui diraient une vérité de la justice, alors que ça, c'est un cas qui n'arrive pas dans la réalité.
Oui, absolument. L'une des choses qui est assez frappante dans la référence à Kafka, notamment à partir de deux livres hein, qui sont le texte « La colonie pénitentiaire » qui est une nouvelle et puis le procès, bien sûr, qui est un peu une référence comme ça exemplaire, c'est que les formes de justice qui sont décrites par Kafka dans ses ouvrages sont à l'opposé de toutes les formes judiciaires connues, que ce soit dans les régimes démocratiques ou qu'on appelle démocratiques occidentaux, ou que ce soit dans les monarchies, les régimes autoritaires, les régimes totalitaires, parce qu'à chaque fois dans ces régimes-là, il y avait des scènes de tribunaux, des accusations de crimes, parfois plus ou moins évidemment des droits de la défense, etc., des sentences publiques, les gens savaient de quoi ils étaient accusés. Et donc, en général, la peine de mort, si on prend l'exemple de la colonie pénitentiaire, par exemple aux États-Unis, elle ne fonctionne absolument pas sur le modèle de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il est accusé, qui ne peut pas se défendre et qui découvre sa sentence une fois qu'on lui applique. La peine de mort aux États-Unis est appliquée par des gens qui sont poursuivis de manière publique, par des lois votées démocratiquement, avec des capacités de se défendre, qui savent pourquoi ils sont condamnés, etc. Donc il y a un écart radical entre le type de construction que Kafka dépeint, et qu'il a le droit, c'est un romancier, donc c'est du fantasme, etc., c'est de l'imagination, il n'y a aucun souci par rapport à ça, évidemment, en tant que romancier, et le fait qu'on va l'utiliser pour interroger les systèmes judiciaires, comme on le fait très traditionnellement, même Bourdieu le fait dans Méditation pascalienne, utilise Kafka pour penser la justice, alors que la justice, en fait, obéit à des procédures réglées, publiques, connues, instituées, etc. Et ce qui est très intéressant pour moi à partir de là, c'est de me demander qu'est-ce qu'on critique quand on critique la justice à partir de Kafka, et est-ce qu'on n'est pas en train en fait de faire l'éloge du présent en faisant croire qu'on critique le présent? Parce que si on critique la justice à partir de l'idée d'une loi absente, à partir de l'idée d'une condamnation où on n'a pas pu se défendre, à partir de l'idée d'une accusation qu'on ne connaîtrait pas, alors que la réalité fonctionne autrement, on en vient à ériger comme norme le système qui existe déjà, comme si en fait un système public, connu, avec des droits de la défense, serait pas un système cruel, or c'est le système réel. Et donc il y a quelque chose de conservateur en fait dans la référence à Kafka, comme si, de manière un peu étrange, on voulait faire l'éloge du présent en faisant croire de critiquer le présent, en critiquant une image mystifiée du présent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans la référence à Kafka, c'est que ne voulant pas affronter les institutions pénales dans leur réalité, on va préférer critiquer des images mythologiques du système pénal qui nous permettent de ne pas affronter la réalité de la violence, de la loi, du caractère public, de la démocratie, etc.
Oui, c'est ça qui est très percutant dans cet essai, mais dans vos essais en général, c'est ce petit pas de côté qui, nous, en tant que lecteurs, on fait dire « mais oui, mais c'est vrai, parce que moi aussi, j'avais ce truc ». Et puis, Kafka, c'est rentré dans la langue commune, c'est kafkaïen, oui. Etc. Enfin, on a vraiment cette idée de... Alors, vous le décrivez très très bien, de cette justice d'un coup qui devient incohérente et qui, de penser comme ça, ça voudrait effectivement dire que, ben, elle a, que sa cohérence n'est pas cruelle, comme vous le dites.
Oui, et puis surtout, ça nous oblige à incorporer des modes de critique qui passent à côté de réalité du fonctionnement concret de l'institution judiciaire. Parce qu'en fait, par exemple, l'un des thèmes fondamentaux, que ce soit dans le procès ou la colonie pénitentiaire, c'est que quand vous dites « le problème, c'est l'accusé qui ne peut pas se défendre » et « le problème, c'est qu'il ne sait pas de quoi il est accusé », immédiatement, l'image que vous avez du problème, c'est que c'est un innocent. En fait. Ça va être un innocent accusé, un innocent condamné, qui n'a pas pu se défendre, etc. Et donc, vous érigez comme norme de critique du système judiciaire la figure un peu mythologique dans nos États, qui est l'innocent injustement emprisonné. Les avocats passent leur temps à parler de l'erreur judiciaire, le risque de l'erreur judiciaire, comme étant peut-être le principal risque d'un système pénal. Mais en fait, quand vous allez assister à des procès comme moi je l'ai fait, et c'est un livre aussi qui essaye d'opposer à la lecture mythologique de Kafka le réel, et le réel de la connaissance des institutions judiciaires, et bien en fait, si jamais vous vous interrogez à la réalité du système judiciaire, vous savez que une bonne partie, et je dirais même 99% des gens en prison, sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Quand vous assistez à des procès d'assises, ou que vous assistez à des comparutions immédiates, etc., la culpabilité, en général, elle est hors de doute. Les preuves, elles sont massives, elles sont évidentes, elles sont patentes. Et donc, en vérité, le système pénal tel qu'il fonctionne dans nos sociétés, il condamne des coupables, il ne condamne pas des innocents. Si vous vous contentez de dire « le problème, en fait, c'est l'innocent injustement emprisonné », vous êtes incapable de critiquer la violence du coupable, justement emprisonné, parce que vous avez érigé comme référence problématique l'innocence, et à partir de ce moment-là, vous implicitement vous dites bah, « si jamais il était coupable, il n'y aurait pas de problème ». Or, il faut arriver à problématiser la réalité du système pénal dont la violence se fonde sur la culpabilité, la condamnation des coupables, etc. Et donc, en fait, vous abandonnez 99% de l'activité du système pénal, voire vous la ratifiez, voire vous la légitimez, et donc vous êtes complice de ce système au moment où vous dites que vous êtes en train de le critiquer.
Et c'est marrant parce que la lecture, enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Joyce Ormond qui a écrit Le Témoin, oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Absolument,
et,
oui, bien sûr.
Et en fait, elle-même a assisté pendant un an, elle est allée au palais de justice assister à des procès, des comparutions immédiates, etc. Et donc, son roman est né de cette expérience. Et c'est un personnage comme ça qui justement petit à petit découvre comment la justice est une justice de classe, enfin qui déconstruit l'image peut-être qu'il avait de la justice à partir du réel justement, parce que, et d'ailleurs Joyce Hormond le disait, vraiment tous les cas qui sont cités, même si on ne peut pas reconnaître les gens, etc., c'est des vraies choses auxquelles elle a assisté. Ça, dans votre manière d'écrire, c'est très prégnant.
Moi, j'essaie de faire un peu, toujours dans mes travaux, un double geste, parce que je pense qu'il est très important de partir de la réalité du fonctionnement des institutions pour en comprendre les fonctions objectives. Et l'un des principes du livre, parce que je viens de dire que c'était un peu un manuel de la pensée oppositionnelle, c'est de dire que les fonctions des institutions réelles sont différentes de leurs fonctions affichées. Que si vous restez à l'image que la justice donne d'elle-même comme institution qui a pour fonction de juger les délits, en fait, vous êtes prisonnier de l'idéologie étatique de la justice, alors que si jamais vous comptez qui est condamné, qui est en prison, dans tous les États connus, vous remarquez une surreprésentation massive des non-blancs, des pauvres, des fractions précarisées, des classes populaires, etc. Et que donc, il y a une fonction objective de l'institution judiciaire par rapport à sa fonction affichée, qui n'est pas en fait de punir les délits, mais qui est de produire des effets de ségrégation ou d'élimination sociale d'un certain nombre de classes sociales. Donc évidemment, vous devez toujours, pour comprendre la fonction objective d'une institution, la réinscrire dans le monde social et pas la penser du point de vue interne d'une idéologie, du point de vue judiciaire ou de l'idéologie qu'elle promeut de son fonctionnement. Mais le deuxième mouvement, malgré tout, que j'essaie toujours d'opérer, c'est de dire qu'il ne faut pas en rester à une lecture strictement sociologique des institutions. Parce que quand on fait ça, on n'attaque pas les valeurs fondamentales de l'institution. Si on dit seulement l'institution, elle enferme les pauvres pour aller vite, ou elle enferme les noirs et les arabes, on se donne le risque de dire bah, si elle enfermait tout le monde pareil, ce serait normal ou ce serait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va ratifier l'idée qu'en fait, si jamais on enfermait pareil les blancs et les noirs, on n'aurait plus rien à dire. Donc il faut accomplir un geste supplémentaire et attaquer le cœur du système, c'est-à-dire attaquer l'idée de répression, l'idée de jugement, l'idée de pénalité, d'où le fait des dernières pages et puis du livre que je suis en train de faire sur l'abolition pénale, essayer de questionner l'idée même de répression et de pénalité. Et là, ça suppose de retrouver la philosophie politique ou la philosophie juridique dans un deuxième mouvement. Mais il faut toujours que ce deuxième mouvement soit précédé du premier, qui est d'abord une déconstruction et une inscription sociologique des institutions pour révéler leurs fonctions objectives, puis ensuite attaquer les valeurs fondamentales qui les font tenir à partir d'un raisonnement philosophie politique. Le problème des gens, c'est que souvent, ils font l'un ou l'autre. Ou ils sont sociologues, donc que la fonction objective, et donc ils oublient l'interrogation des catégories. Ou ils sont philosophes, ils vont penser qu'en termes de catégories, ils vont oublier les fonctions objectives. Et donc, moi, j'essaye un peu de tenir les deux.
Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas, pour revenir juste sur ce texte, parce que c'est la concomitance de mes lectures sûrement, mais chez Joyce Hormond aussi, elle arrive à quelque chose, et en tout cas, quand on le lit, on se dit, mais en fait, mais ce qui ne va pas, c'est l'idée de coupable. Enfin, ça va beaucoup plus loin que, effectivement, juste l'idée de justice de classe. Mais il y a cette première étape. Et ensuite, pour dire, mais alors comment on fait pour vivre ensemble, pour se juger, pour se... Enfin, tout ça, quoi. C'est extrêmement profond, en fait, comme réflexion.
Oui, d'ailleurs, Kafka le dit, hein, c'est pour ça que c'est intéressant. Comme vous avez dit au début, j'ai été très heureux que vous dites ça, qui est que j'essaye de plutôt penser qu'est-ce qu'on a retenu de Kafka que de mettre en question Kafka, parce que Kafka, il y a tout un ensemble d'autres dimensions de son œuvre qui est un peu plus séditieuse, parce que Kafka était du côté des groupes socialistes libertaires, Kafka était proche de certains penseurs anarchistes de son époque, Kafka lisait des auteurs marxistes, etc. Donc on sait qu'il avait une inscription comme ça dans une disposition un peu plus oppositionnelle par rapport à l'ordre social. Et dans beaucoup de textes que je cite à la fin du livre, en fait, il essaie de mettre en question l'idée de jugement, l'idée de culpabilité. Est-ce qu'un homme peut être coupable? Cette phrase célèbre du procès, je ne peux pas être coupable parce que je suis un homme. Donc il y a une résistance de l'idée d'humanité à l'idée de culpabilité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui montre le caractère mutilant des institutions pénales et le fait qu'il faut accomplir un geste vraiment radical de destruction des institutions pénales.
Vous avez une tonalité d'écriture comme ça, assez légère, assez pragmatique, mais comme vous le dites, comme vous partez du réel, et c'est très clair. Donc en fait, j'ai envie de le faire entendre un peu, c'est pour ça aussi, et puis comme ça cadre avec ce que vous venez de dire, je voudrais lire un passage. Alors, en se contentant de mettre en cause les dysfonctionnements éventuels de la machinerie judiciaire, ces discours installent un cadre de perception au sein duquel il n'y aurait plus rien à dire si tout se passait normalement, si seuls les coupables étaient punis. Dès lors, le système de la punition, de l'incarcération, de la responsabilité individuelle est laissé complètement intact par ses discours. Il est même expulsé du champ de la critique, en sorte que, au moment même où il s'imagine interroger le système pénal, les locuteurs de ses discours en légitiment en fait les valeurs fondamentales et ratifient le bien fondé de son fonctionnement ordinaire et majoritaire. Le mythe culturel de l'innocent incarcéré pourrait bien être l'un des responsables de la persistance de l'adhésion aux principes fondateurs de l'appareil pénal dans nos sociétés. Et alors, bon, alors moi je trouve ça vraiment à la fois brillant et clair, enfin je sais pas, ça me fait du bien de dire des choses comme ça. Vous êtes intéressé, j'ai l'impression, par toute forme de destruction institutionnelle, déconstruction.
Déconstruction, reconstruction.
Oui, voilà. C'est-à-dire, une observation du réel nous met forcément dans la conviction que ça n'est pas ce qu'on nous a dit que c'était. mais c'est en même temps très confortable aussi. Et en fait, du coup, on ne réfléchit pas à ce qu'on pourrait faire d'autre, quoi.
Alors, c'est vrai aussi qu'il faut mentionner, et c'est important, et c'est pour ça aussi que je fais mon livre d'après, c'est que c'est très, très difficile de critiquer le présent sans avoir une image du futur. Et c'est l'une des choses qui explique parfois la faiblesse de la gauche. C'est que quand vous dites que vous voulez abolir le capitalisme, que vous voulez abolir la pénalité, si vous n'avez pas l'image d'une institution autre que vous pouvez lui substituer et qui peut fonctionner comme un référent positif, bah, par exemple, c'est très, très dur, effectivement, de porter la critique parce que vous avez toujours l'objection. Qu'est-ce que vous faites si un mari bat sa femme? Qu'est-ce que vous faites après une agression sexuelle? Qu'est-ce que vous faites après un attentat de masse, etc. Et comme il y a cette espèce d'impossibilité de se référer à un contre-modèle pour mettre en question le présent, bah, effectivement, même la critique, elle devient un peu inefficace parce qu'on dit, bah oui, mais tu ferais quoi? Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais,
c'est un peu ça la question. Par exemple, quand je fais le livre sur l'amitié, 3, pour lequel vous m'aviez déjà interrogé, là, je peux proposer un modèle. Je peux dire, là, je critique le modèle familial et j'ai une utopie opposée. Et donc, on comprend beaucoup mieux le fonctionnement de la famille parce qu'on voit d'autres agencements relationnels possibles. Et donc, la critique, elle s'articule à une reconstruction possible qui la rend beaucoup plus efficace. Ce qui est le problématique, c'est que la tradition de l'abolition pénale, c'est-à-dire de la proposition concrète d'institutions alternatives à la pénalité pour gérer les violences que les gens exercent les uns sur les autres, eh ben, elle n'a pas été construite, elle n'a pas été faite, ce travail-là, parce que les intellectuels, très souvent, refusent le travail de reconstruction. Parce qu'ils disent, c'est pas à nous de le faire, c'est aux experts, c'est aux juristes. Nous, on fait que critiquer, on produit pas des nouveaux cadres de pensée. Et donc, c'est aussi à la faute des intellectuels, si on est démunis par rapport à la radicalité de la critique de l'État pénal. Et c'est pour ça que moi, alors voilà, je le dis, ce que je suis en train de faire, c'est ça. C'est de me dire, je ne vais pas me contenter de critiquer la pénalité. On sait le faire, ça fait 50 ans qu'on le fait, ça fait 150 ans qu'on le fait. Je vais m'atteler à construire un cadre possible de gestion des conflits alternatif à la pénalité et proposer une contre-utopie à la réalité pénale. Et je pense que quand on aura fait ce travail-là, alors on pourra être beaucoup plus fort pour s'opposer à la pénalité, parce qu'on a l'idée d'une gestion alternative.
Par exemple, pour cette invention-là, cette reconstruction dont vous parlez, qu'est-ce qui vous inspire? Sur quoi vous vous appuyez? Est-ce que c'est des affects
Vous savez, je ne suis pas mitterrandien, mais il y avait une phrase de Mitterrand qui était « Je crois aux forces de l'esprit ». Vous savez, et moi, je crois aux forces de l'esprit, c'est-à-dire je crois vraiment à l'idée de pensée, à l'idée de réflexion et de spéculation. Donc, je vais dire des choses très banales. Mais quand je me lance dans un projet comme ça, bah, je lis énormément sur des expériences de justice alternative, sur des manières différentes de gérer tout un ensemble de problèmes. Il y a toujours, quand vous vous intéressez à ce sujet, vous rendez compte qu'il y a toujours 2000 livres qui ont été écrits depuis 30 ans sur ce sujet, mais qui n'ont jamais été vraiment rassemblés, synthétisés, systématisés, etc. Et donc, j'essaye au maximum. Moi, c'est par la pensée que j'essaye de rejoindre le monde. Je pense qu'il y a des manières différentes de rejoindre les autres. Il y a la sensibilité, il y a l'écriture romanesque pour certains, il y a les films. Moi, c'est par la spéculation que j'arrive à rejoindre les autres, bizarrement. C'est cette manière-là que j'arrive à me confronter à d'autres singularités ou à d'autres potentialités du monde. Donc, moi, je vous dirais une chose très simplement, c'est par l'écriture, la lecture, la réflexion.
Après, moi, je trouve ça... Enfin, je trouve que comment dire, vous vous risquez beaucoup dans ce que vous écrivez. Je trouve que je suis assez admirative de la manière dont... Enfin, voilà, vous n'avez pas peur, quoi, vous y allez, quitte à des fois poser les choses. D'ailleurs, dans la rencontre, vous le disiez aussi, des fois, vous avez dit que vous aimez bien les choses un peu noir-blanc. Fois, quitte à poser les choses comme ça, pour qu'on vous rentre dedans, presque, je ne sais pas. Mais sûrement, d'ailleurs, ça doit faire appel d'air. Oui, je trouve ça assez courageux parce qu'en fait, j'ai l'impression que voilà, vous avez une idée, vous la creusez intellectuellement comme ça, et puis vous avancez les trucs et puis on y va, quoi. Il y a une espèce de force et de là-dedans. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Vous savez, moi, je vais vous dire, il y a aussi un côté d'affect. Moi, je sais que quand je suis en manifestation, le moment où j'ai, comme beaucoup de gens du thrill, c'est quand le black bloc arrive. C'est-à-dire ce moment de confrontation avec l'ordre policier, et notamment avec l'idée de qu'est-ce que la police définit comme la limite de la manifestation, le parcours balisé, ce qu'on peut faire en plus, etc. Et que quand surgit cette espèce d'agitation du carré de tête, en quelque sorte du cortège de tête, eh bien, il y a souvent quelque chose de l'ordre d'une forme d'une déstabilisation du système de la manifestation, dans le système de la manifestation, et qui cherche une frontalité avec l'ordre policier, et qui cherche à monter le conflit à un niveau de confrontation qu'il n'aurait pas s'il restait dans les formes rituelles. Moi, j'ai la coutume de dire que cette espèce d'affect-là que j'ai toujours ressenti, je ne sais pas pourquoi on ressent un affect, les gens qui sont mieux un peu au fond dans le cortège syndical, moi c'est toujours de ce côté-là de la manifestation que j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la vie et de la puissance de la vie. Bah, de fait, moi dans la théorie, c'est un peu ça que je cherche, c'est que écrire pour être un peu comme un black bloc de la théorie, c'est-à-dire essayer d'être dans la théorie, mais de la pousser à un niveau où elle devient un peu bouillonnante, où elle devient un peu frontale par rapport aux limites de la théorie, où elle peut un peu basculer dans l'activisme, ou basculer dans une forme de provocation de pensée. Et cette espèce de frontière que j'essaye de trouver, qui n'est ni non plus l'émeute sacrificielle, qui serait un peu la théorie incantatoire qui m'a toujours fait horreur, mais ni dans le conformisme un peu mou du cortège du milieu, quoi. C'est de trouver cet endroit-là, et c'est un peu le black box qui est un peu mon modèle, si vous voulez, pour penser l'activité théorique pour moi.
Ah oui, bah ça, enfin, la comparaison que vous faites me parle par rapport aux lectures que j'ai de vous. Et par exemple, j'ai l'impression que l'essai peut-être que je trouve le plus rentre-dedans presque, ou le plus, je sais pas comment dire, c'est L'art impossible, mais pas parce que j'ai l'impression que c'est celui que j'ai eu le plus de mal à faire passer auprès de mes amis qui sont des fois artistes ou qui travaillent, et alors que moi j'étais toujours, en tout cas, quoi qu'on en pense, de toute façon, ce que je trouve très agréable, c'est que ça pousse notre pensée dans ce côté black bloc, ben on y va aussi, quoi. Enfin, on est un peu obligé, quoi. Enfin, on peut pas rester de marbre. Et donc, il y en a que ça agace. Non. Mais moi, je trouve que ça m'aide à structurer. Mais surtout, moi, en vrai, j'étais d'accord avec vous. J'ai trouvé un point de. Ben, il y a des choses qu'on a du mal à penser quand on est concerné, quand même.
Enfin. L'une des questions que pose le cortège de tête à une manifestation, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on manifeste ? Est-ce qu'on est en train d'agir politiquement, ou est-ce qu'on est en train de se soumettre à ce que l'État a défini comme la protestation légitime, et donc un peu déjà programmée par le système et donc neutralisée par lui ? Donc il y a une force d'interpellation qui est produite par les activités du cortège de tête, qu'on peut ne pas forcément ratifier dans ses formes d'action, mais qui ne laisse personne indifférent. Et c'est vrai que moi, l'art impossible, c'était exactement ça, c'était de dire, je vais essayer de confronter les artistes aux questions qu'ils évacuent pour pouvoir être artistes. Évidemment, quand vous êtes artiste, puisque vous avez supposé d'avoir envahi ces questions, ou enterré ces questions plutôt, pour pouvoir être artiste, le fait qu'elles reviennent, bah, ça vous met toujours un peu en difficulté. Et d'ailleurs, c'est vrai que parfois, ce qui me rend parfois un peu triste, je vous le dis très honnêtement, c'est que parfois des artistes me disent, depuis que j'ai lu votre livre, je suis bloqué depuis 5 ans, je n'arrive plus à travailler.
Ah, oui.
Ça me gêne un peu. Parce que je dis toujours, bah, le principe d'un livre, c'est de pousser à faire des choses, c'est surtout pas d'empêcher de faire des choses. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est des questions que les artistes doivent se poser, doivent se mettre en question. Et donc, c'est vrai que c'est un livre qui interrogeait un peu le fondement du champ artistique, je pense, vraiment contemporain.
Ah, oui.
Et donc, qui essayait de faire exploser un peu ce champ. Et les pratiques qui étaient inscrites à l'intérieur de lui, et même celles qui se pensaient comme critiques. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense que c'est un livre qui essayait un peu d'opérer ce type de mise en question.
Je vais revenir à ce mythe de Kafka, juste pour finir. Il y a tout un... Enfin, vous interrogez évidemment énormément au travers de ce questionnement sur la perception de l'œuvre de Kafka, la notion de pouvoir, et il y a vraiment des choses très intéressantes sur la question du pouvoir arbitraire.
En fait, la question, je pense, un peu... Si on veut monter en généralité à partir de ce cas-là, la question que j'essaie de poser dans ce livre, c'est qu'il faut sortir de toute évaluation formaliste du pouvoir. C'est-à-dire que le grand problème dans la théorie politique contemporaine et dans la réflexion politique en général, c'est qu'on a tendance à évaluer un pouvoir par sa conformité à une règle ou par son caractère arbitraire, indépendamment de l'évaluation concrète de la décision de pouvoir sur la vie des gens. Le fait qu'une décision soit arbitraire ou réglée ne nous dit rien sur la valeur substantielle de cette décision. Il y a des décisions arbitraires qui peuvent être positives, par exemple le droit de grâce, et peut y avoir des décisions réglées, légales, qui sont dégueulasses, comme la mort d'Adama Traoré. Donc le fait que quelque chose soit réglé, légal, n'empêche pas que ça puisse être nocif, et le fait que quelque chose soit arbitraire n'empêche pas que ça puisse être positif, que ça puisse être émancipateur. En fait, ça renvoie en fait à une question que je me pose et que tout le monde doit se poser, c'est qu'en fait, l'un des problèmes, c'est que en fait, notre manière d'avoir mis en question les régimes autoritaires et totalitaires des années 30, des années 40, ou même les régimes absolutistes, royaux, etc., nous a fait basculer dans une croyance dans ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire d'opposer à l'arbitraire policier, à l'arbitraire du souverain, etc., à l'état d'exception chez Agamben, l'idée d'un droit qui serait réglé, qui serait universalisé, qui serait figé, stable, etc. Mais le problème de cette opposition entre ce qui est réglé, stable, et ce qui est arbitraire, qui serait donc négatif, c'est qu'on est complètement vide du point de vue de régler quoi ? Qu'est-ce que règle la loi ? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? C'est comme s'il suffisait que la loi soit réglée pour qu'elle soit positive. Alors, en fait, ce n'est pas normal, ça. La vraie analyse du pouvoir, elle doit être substantialiste, c'est-à-dire non pas réglée par réglée, arbitraire par arbitraire, c'est est-ce que ça diminue les effets de pouvoir ? Est-ce que ça augmente les effets de pouvoir ? Est-ce que ça expose des corps à la mort ? Est-ce que ça diminue l'exposition à la mort ? Et donc, il faut substituer à une réflexion en termes... En gros, pour être simple, entre état de droit, état autoritaire... une opposition entre État qui protège de la blessure et État qui augmente les phénomènes de blessure, c'est-à-dire penser en termes substantialistes le pouvoir et pas en termes formalistes. Et le problème de la référence à Kafka, c'est qu'elle nous a entraînés sur une évaluation totalement formaliste du pouvoir, où le problème, c'est toujours du pouvoir, son indétermination, dit Benjamin. Mais si on dit qu'un pouvoir qui est indéterminé, en fait, peu importe s'il est indéterminé, si jamais son indétermination, elle est au service de la vie, mais si elle est au service... que si sa règle était au service de la destruction de la vie, elle serait négative. Donc en fait, il faut substituer une approche formaliste du pouvoir, une approche substantialiste du pouvoir, et à ce moment-là, c'est tout l'ordre juridique et tous nos États qui sont amenés à être redéfinis dans leur fondement.
Merci beaucoup, on va devoir s'arrêter là. Eh bien, on attend avec impatience le prochain. Merci
avec
Geoffroy
plaisir.
De la Gannerie.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.